France Culture. Souveraineté. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Les États-Unis de Donald Trump sont lancés dans une politique de pression maximale pour satisfaire leurs intérêts. Au pied du mur, que peut l'Europe ? C'est notre série de la semaine. Le gouvernement américain reproche à l'Europe son excédent commercial sur les États-Unis. Nous en parlions hier. Et pourtant, ce sont bien les États-Unis qui sont largement excédentaires dans les services. Et c'est cette dépendance-là que l'Europe essaye de contrebalancer. Thierry Breton le disait quand il était encore commissaire au marché intérieur.
C'était un peu le Far West, c'était à leurs mains. Nous avons repris le pouvoir, parce que nous sommes des autorités politiques. Et nous leur avons dit, vous êtes évidemment le bienvenu. Vous êtes le bienvenu dans cet espace que représente évidemment le marché intérieur et maintenant le marché intérieur numérique. Mais seulement, voilà nos règles.
Nous invitons maintenant vos pays à travailler avec nous et à suivre notre modèle si cela a du sens pour vos nations. Cependant, l'administration Trump est préoccupée par les informations selon lesquelles certains gouvernements étrangers envisagent de serrer la vis aux entreprises technologiques américaines d'envergure internationale. L'Amérique ne peut pas accepter cela et elle ne l'acceptera pas.
Nous allons travailler avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et qui poussent pour censurer davantage. Les États-Unis ont les protections constitutionnelles les plus fortes au monde concernant la liberté d'expression. L'Europe a un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et qui rendent difficile le fait d'y construire des choses innovantes.
Ce serait là tout l'objet de l'incompréhension entre les États-Unis et l'Europe dans le domaine du numérique. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, se fait ici le porte-parole des patrons des réseaux sociaux de la Silicon Valley. Les États-Unis et les pays européens n'auraient pas la même définition de la liberté d'expression, comme si le premier amendement de la Constitution états-unienne était incompatible avec, en France, notre déclaration des droits de l'homme. Que ce soit le règlement pour les services numériques, le DSA, le règlement sur les marchés numériques, le DMA, ou celui sur l'intelligence artificielle entrée en vigueur le 7 février dernier, tous les outils mis en place par l'Union européenne pour réguler les contenus des plateformes, bannir la désinformation et les contenus haineux, contrôler l'utilisation de l'IA, éviter les positions dominantes sur le marché, tous ces instruments sont donc considérés par Donald Trump et son équipe comme au mieux des droits de douane qui ne disent pas leur nom, au pire des actes de censure. Au-delà d'une querelle entre vision libertaire ou régulatrice des technologies, c'est aussi notre dépendance aux services numériques états-uniens que Bruxelles essaie de contrebalancer. Pendant longtemps, les acteurs européens ont très largement opté pour des technologies américaines plutôt que développer leur propre système. Dans quelle mesure ces big tech américaines représentent une menace pour la souveraineté numérique, voire pour les démocraties européennes? Que peut donner la contre-attaque de l'Union et jusqu'où peut-elle aller? Nous sommes en duplex depuis Lausanne, dans les locaux de la RTS avec Suzanne Vergnol. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes maîtresse de conférence en droit du numérique au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Vous avez été lauréate entre 2015 et 2016 d'une bourse Fulbright. Ce sont ces bourses financées en partie par le département d'État américain. On peut peut-être d'ailleurs en dire un mot d'emblée, même si ça n'a pas de rapport avec notre sujet du jour. Mais ces bourses-là sont-elles menacées aujourd'hui par le gouvernement Donald Trump ?
Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le programme Fulbright, c'est un programme qui vise à favoriser les échanges culturels et à asseoir durablement la paix. C'est un programme qui a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec un objectif de compréhension mutuelle. Et évidemment, aujourd'hui, dans la vision de l'administration Trump, c'est quelque chose qui fait partie des instruments qu'il faut revoir, voire arrêter le financement.
Vous en avez bénéficié pour travailler notamment sur ce dialogue transatlantique et sur les flux de données entre l'Europe et les États-Unis. Cette compréhension mutuelle dont vous parlez qui est aujourd'hui mise à mal, et il y a déjà d'emblée un problème de compréhension quand les États-Unis reprochent à l'Union européenne de réguler trop. Quand est-ce que ça a commencé, Suzanne Vergnol, cette rhétorique du côté américain de dire que l'Union européenne met trop d'obstacles sur le chemin que ces géants du numérique voudraient totalement ouvert et sans embûches?
Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense qu'il n'y a pas une vision uniforme du fait que l'Europe régule trop. On a beaucoup de collègues américains qui travaillent sur les lois européennes, qui travaillent sur les réglementations européennes et qui disent justement que ce sont des textes qui visent à trouver un équilibre entre innovation et protection, entre une vision politique des droits fondamentaux et une vision plus régulatrice. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une vision uniforme en ce qui concerne cette régulation et en ce qui concerne ce trop-plein de régulation. On a par exemple une collègue américaine qui a développé le concept du Brussels Effect, l'effet de Bruxelles, dans lequel on voit que les réglementations qui viennent de Bruxelles ont un impact dans le monde entier. C'est-à-dire que les pays en dehors de l'Europe vont s'inspirer des règles qu'on crée en Europe parce que justement ces règles trouvent un juste équilibre entre ces différents intérêts en présence, innovation, protection des droits fondamentaux, économie, etc. Et donc vraiment, on a une vision assez hétéroclite. Il n'y a pas un courant fondamental qui dit l'Europe régule trop, il faut arrêter. C'est plus des courants de pensée qui se distinguent.
Alors qu'il y a un courant de pensée qui est peut-être éteint aujourd'hui aux États-Unis, je ne sais pas trop, mais qui est né dans les années 60-70 aux États-Unis pour la protection des données, notamment quand les États-Unis disent aujourd'hui, et ce depuis 2016, puisque le RGPD, le règlement européen sur les données personnelles, a été adopté en 2016 et mis en application en 2018, quand les États-Unis ont dit là vous régulez trop, il y avait sans doute aux États-Unis encore des personnes pour dire rappelez-vous que nous avons été les pionniers dans la régulation, au contraire.
Alors effectivement, il y a eu ce courant dans les années 60-70 où des ingénieurs alertaient sur les risques liés à l'informatisation, au pouvoir que les machines pouvaient avoir sur les décisions prises en ce qui concerne les personnes. Ça, c'est quelque chose d'historique. Et quand on fait du droit comparé en matière de droit du numérique, on se rend compte qu'il y avait ce dialogue transatlantique, il y avait ces inspirations, vous le mentionniez au début de l'émission, en ce qui concerne les droits fondamentaux, le premier amendement versus la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On avait des personnes qui étaient des deux côtés de l'Atlantique à cette époque aussi et qui discutaient. Et il y avait vraiment un dialogue fructueux. Et j'ai le sentiment que effectivement, déjà en 1995, avec l'adoption de la directive sur la protection des données à caractère personnel, qui est ensuite devenue ce fameux RGPD, on a eu un début de friction sur ce qui était concerné, ce qui était considéré comme devant être régulé et jusqu'à quel point on devait réguler. Le RGPD, c'est un texte qui trouve un équilibre, à mon sens, entre la permission des traitements de données à caractère personnel et la protection des droits des personnes qui font l'objet de ces traitements. C'est un texte qui est ambitieux en matière de droits des personnes, mais qui est aussi assez permissif. On n'a pas une interdiction complète de traiter des données. Au contraire, on pose un cadre juridique, on pose un certain nombre de règles, notamment, par exemple, l'information des personnes en ce qui concerne les traitements de leurs données, mais on n'est pas dans une interdiction absolue de ces traitements. Au contraire, on trouve justement, comme je le disais, cet équilibre entre innovation et protection des droits des personnes.
Après le RGPD, ce règlement européen sur les données personnelles, les autres textes et surtout règlements qui ont posé problème aux États-Unis sont beaucoup plus récents. C'était en 2003, ces deux règlements DSA, règlement pour les services numériques, et DMA sur les marchés numériques. Est-ce que ces règlements ont été conçus, comme les en accusent les États-Unis, spécifiquement pour contrer les géants du numérique américains, que ce soit pour éviter leur hégémonie sur le marché, ça c'est le DMA, et pour contrôler tout leur contenu? Ça, c'est le DSA.
Alors, en fait, ces textes, que ce soit le RGPD, le DMA, le DSA, qui sont des règlements de 2022, mais aussi le Data Act, le Data Governance Act, le Cyber Security Resilience Act, on a énormément de textes. Tous ces textes font partie d'une stratégie européenne en matière de numérique. Vraiment, on est dans un objectif politique assez organisé de qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos valeurs, mais aussi permettre l'innovation. Ces textes, ils n'ont pas été créés afin de cibler spécifiquement les entreprises américaines. Ils ont été créés afin de protéger les valeurs et les objectifs qui sont au sein de l'Union européenne, communs entre les États membres. Et effectivement, comme on a de nombreuses entreprises aux États-Unis qui ont leurs services en Europe, évidemment, c'est ces entreprises qui proposent leurs services et qui ont un grand nombre d'utilisateurs en Europe, elles vont être concernées par cette régulation. Mais ces textes sont en fait des textes qui ont une visée politique de protection de nos valeurs européennes.
Internet est né comme un instrument de partage des connaissances, d'ouverture d'esprit et de connexion entre les gens. Il l'est toujours. Mais il a également donné lieu à de sérieux défis. La désinformation, la diffusion de contenus préjudiciables, les risques pour la confidentialité de nos données. Tout cela a conduit à un manque de confiance et parfois à une violation des droits fondamentaux des personnes. En réponse, l'Europe est devenue le pionnier mondial des droits des citoyens dans le monde numérique. Le DSA et le DMA créent un espace numérique plus sûr, où les droits fondamentaux sont protégés. Et ces lois garantissent l'équité et une responsabilité claire pour les grandes entreprises technologiques. Il s'agit d'une réalisation historique et je pense que nous pouvons en être fiers. Il devrait en être de même pour l'intelligence artificielle.
Ursula von der Leyen, le 13 septembre 2023, ça date déjà un petit peu, avec une vision un peu générale de ce que doit faire l'Europe et la réglementation européenne de l'espace numérique. C'est d'ailleurs à elle, présidente de la Commission européenne, en tout cas à la Commission européenne, qu'incombe la mise en application du DSA, donc ce texte qui porte sur l'encadrement des contenus depuis son entrée en vigueur il y a maintenant un an. Est-ce que la Commission a déjà, Suzanne Verniol, engagé des procédures spécifiquement contre des groupes états-uniens?
Alors, un petit pas de côté, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le DSA a un ensemble de règles assez intéressant d'un point de vue régulation. On a des règles qui vont s'appliquer à tous les services d'intermédiaires, donc toutes les personnes qui font que les services peuvent fonctionner, hébergement, mise en cache, fourniture d'accès à Internet, etc. Ça, c'est la structure de base. Et puis après, on va avoir un certain nombre de règles qui vont s'appliquer qu'à certains acteurs. Et ces acteurs, je dirais, plus l'impact de l'activité d'un acteur va être important sur la démocratie, et plus cet acteur va avoir un nombre important de règles. Et donc, on a par exemple les très grands services, qui sont les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, qui vont avoir un certain nombre de règles assez ambitieuses, il faut le dire, en ce qui concerne leur activité. Et la Commission européenne est effectivement chargée de mettre en œuvre ces règles à l'égard de ces très grands services. Elle a une compétence exclusive et elle travaille aussi avec les coordinateurs nationaux, notamment en France, on a l'ARCOM, pour mettre en place ces règles. Et aujourd'hui, on n'a pas eu encore de sanctions qui ont été prononcées, mais on a un grand nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes, notamment à l'encontre de X, par exemple, ou de TikTok, en ce qui concerne leurs pratiques sur leurs services et ces règles, comme je le disais, assez ambitieuses pour ces très grandes plateformes.
On peut en donner quelques exemples. Ce sont ces enquêtes qui ont permis, par exemple, si j'ai bien compris, de fermer TikTok Lite. C'était cette plateforme TikTok qui récompensait le fait de regarder des vidéos sur TikTok avec des jetons virtuels échangeables contre des cartes cadeaux. La Commission a dit que c'est beaucoup trop addictif pour nos jeunes. Ça, on l'interdit. Pour X, donc Twitter, la Commission a demandé à X des informations sur ces systèmes de recommandation pour voir par exemple si au moyen des algorithmes le réseau aurait par exemple donné un avantage à l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, pendant la campagne pour les législatives de février. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure X a obtempéré et fourni des documents et informations nécessaires, Suzanne Verniol?
Alors, la Commission travaille de manière un petit peu, je dirais, secrète, malheureusement. Elle ne souhaite pas trop partager ses enquêtes, ses documentations. Pour autant, on a des journalistes qui utilisent les outils du droit d'accès aux documents administratifs européens pour essayer de récupérer ce genre d'informations et pour essayer de savoir un petit peu où on en est au niveau de ces enquêtes. Mmh. Alors, il y a un débat juridique de savoir si on a accès à ces documents en tant que documents administratifs. Le débat est encore un peu ouvert. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a aussi eu des débats sur le fait de savoir si la Commission européenne, en tant qu'organe exécutif et en tant qu'organe politique, n'avait pas un petit peu temporiser ces enquêtes avec l'arrivée de l'administration Trump pour essayer de garder un dialogue avec cette administration. Et là-dessus, en fait, c'est pour ça que je fais partie des chercheurs qui considèrent que ce pouvoir remis à la Commission européenne dans le cadre du DSA, ce pouvoir exclusif, est un peu critiquable. En tant qu'organe exécutif, en tant qu'organe politique, la Commission ne devrait pas mener des enquêtes. Elle devrait être de côté. Ça devrait être à des juges ou en tout cas à des autorités de régulation spécialisées sur ces questions que devrait revenir cette tâche de mener des enquêtes, et on aurait moins ces difficultés et cette tension en fait entre les deux rôles de la commission qui est exécutif et aussi judiciaire.
Donc ce ne sont pas en effet des juges indépendants qui enquêtent aujourd'hui, c'est une équipe de la Commission européenne qui a été d'ailleurs étoffée récemment, ses effectifs portés à 200 personnes. C'est vrai que la commission est une institution politique et non pas judiciaire, et on peut imaginer qu'entre en compte ce qu'elle estime être de son intérêt. Le Financial Times d'ailleurs écrivait récemment que la commission avait suspendu ou réévalué certaines enquêtes menées contre les géants technologiques américains. C'est, comme vous le dites, Suzanne Vergnol, très difficile d'en savoir davantage puisque tout ça se fait sous le sceau du secret. Alors, avec des amendes à la clé, quand Donald Trump parle d'extorsion, de pénalité injuste, il parle des amendes, puisque le DSA prévoit des amendes qui peuvent s'élever à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de ces entreprises, voire 10. Mais jusqu'à présent, vous le disiez, pas d'amende. Quand l'Union européenne a condamné Apple en 2024, par exemple, c'était pas dans le cadre du DSA ?
Alors, il y a eu effectivement des amendes qui ont été prononcées depuis quelques années à des montants assez importants, notamment dans le cadre du RGPD ou dans le cadre des règles qu'on avait en droit de la concurrence. Pour l'instant, en matière de DSA et de DMA, on n'a pas eu d'amendes qui ont été prononcées ni au niveau local. Comme je le disais tout à l'heure, les coordinateurs nationaux ont un pouvoir aussi pour les services qui ne sont pas ces très grands services. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'amendes qui ont été prononcées sur le fondement de ces deux textes. Pour autant, on a toujours les autres textes qui continuent de s'appliquer. Le RGPD a eu un certain nombre d'effets en matière d'amendes, avec des millions qui ont été prononcés. Et cette difficulté qu'on a dans la mise en œuvre du RGPD, parce qu'on a un mécanisme de guichet unique, où c'est l'autorité irlandaise qui est récupère à bénéficier d'un certain nombre de contentieux parce que les entreprises américaines ont leur siège européen en Irlande. Et en fait, l'autorité irlandaise est très fortement critiquée au niveau européen pour être assez laxiste, assez coulante, je dirais, pour ces très grandes entreprises en matière de protection des données. Et là-dessus, heureusement, on a le CEPD, qui est le Comité européen à la protection des données, qui est l'ensemble des autorités de protection au niveau européen qui se rassemblent et qui permet un petit peu de veiller à ce que le montant de ces amendes ne soit pas dérisoire pour ces très grandes entreprises.
Donc, en l'occurrence, quand Apple a été condamné par l'Union européenne en 2024, c'était pour des infractions à la concurrence. Donc, c'est encore un autre règlement. 1,84 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de diffusion de musique en continu auprès des utilisateurs d'iOS. Alors, pour tout ce qui est les enquêtes en cours menées par la Commission européenne, il y a par exemple le fait de savoir si recevoir des avalanches de messages postés par Elon Musk lui-même quand on on ouvre X, est-ce que ça fait l'objet d'une enquête de la commission? En tout cas, il me semble, même si lui ne peut pas être inquiété au nom de la liberté d'expression, mais les algorithmes, s'ils favorisent ces avalanches de commentaires et prises de position, là, ça deviendrait un problème. Donc, il y a plein d'enquêtes en cours. Sur Meta, Mark Zuckerberg, le dirigeant de Meta qu'on entendait tout à l'heure, a annoncé, là, il y a quelques semaines, qu'il mettait fin à son programme de vérification des faits sur ses réseaux sociaux aux États-Unis. Comment intervient alors le DSA, le service sur les règlements numériques?
Alors effectivement, comme vous le disiez, il y a cette question des recommandations, des algorithmes de recommandation. Et dans le DSA, les très grands services, donc les très grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, doivent mettre en place une analyse et une détection des risques systémiques qui vont être présents sur leur plateforme. Et dans ces risques, on peut avoir effectivement l'impact sur le discours civique, les effets électoraux. Et aussi, on a cette obligation qui existe en matière de système de recommandation avec une analyse et une détection potentielle de l'impact de ces systèmes de recommandation. Donc, quand on a des discours politiques qui sont poussés sur des plateformes, notamment avec des tweets d'Elon Musk qui sont beaucoup plus visualisés parce que beaucoup plus poussés par l'algorithme, on a un impact politique, on a un impact sur les en matière de système de recommandation, et ça doit faire l'évaluation, enfin ça doit faire l'objet d'une évaluation et potentiellement d'une atténuation en ce qui concerne les risques systémiques. Après, il y a effectivement d'autres instruments qui peuvent être utilisés par la commission en matière d'analyse de ces risques systémiques. Et là, on attend avec impatience les premières décisions de la part de la commission pour pouvoir savoir effectivement qu'est-ce qui a été analysé.
Et savoir aussi ce que la commission pense, par exemple, de ce que Meta remplace progressivement, oui, les vérificateurs de faits, toutes ces personnes humaines qui étaient là pour vérifier des posts, qui sont remplacées par les notes de la communauté. Donc, comme sur X, les utilisateurs sont invités à ajouter du contexte à une publication s'ils estiment qu'elle tord les faits ou qu'elle ment. Et pour l'instant, le DSA ne dit rien au sujet de ces notes de la communauté. Donc, c'est encore un sujet à aborder. Alors, il y a aussi de la coopération, parfois. La commission disait récemment que X s'était montrée coopérative quand elle a co-organiser des réunions avec les plateformes en amont des élections en Slovaquie, en Pologne, en Finlande, pas en Roumanie en revanche, qui a refusé. Est-ce que les États-Unis sont totalement, fondamentalement, viscéralement, Suzanne Vergnolle, opposés à la régulation des contenus numériques au nom de la liberté d'expression, ou est-ce qu'il est possible de trouver avec eux des terrains d'entente?
Alors déjà, pour revenir sur ce que vous disiez sur les modifications par Meta, il y a un outil qu'on a en Europe qui a été créé en France qui s'appelle Open Terms Archive, qui permet de suivre les modifications qui sont faites sur les politiques de confidentialité ou les conditions générales d'utilisation, qui est un outil technique qui a été mis en place afin de visualiser très rapidement ce qui change, ce qui est modifié au sein de conditions générales d'utilisation qui sont très 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 longues et très fastidieuses à lire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue technique, qui permet justement d'enrichir les chercheurs en droit comme moi qui est effectivement utilisé. Et en effet, on a vu récemment cette modification par Meta du retrait des contrôles en matière de contenu haineux, ce qui est absolument problématique et ce qui va pas du tout dans le bon sens en ce qui concerne le règlement sur les services numériques. Et alors, est-ce qu'il y a effectivement une différence ou une opposition entre les États-Unis et l'Europe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les États-Unis qui critiquent beaucoup notre réglementation, et pourtant le Sénat a voté il y a quelques semaines un texte qui s'appelle le Take It Down Act, qui vise à accélérer le retrait de contenu intime qui ne serait pas consenti. Et les organisations américaines de défense des droits disent très clairement, donc c'est l'IFF, l'Electronic Frontiers Foundation et CDT, qui disent très clairement que ce texte apporte un risque de censure. Donc on a un texte qui est soi-disant mieux calibré que le DSA, et pour autant on a un risque de censure. On n'a pas les mêmes mécanismes qu'on a dans le DSA, notamment par exemple des mécanismes de notification des utilisateurs en matière de retrait de leur contenu. Donc ça veut dire que un utilisateur qui verrait son contenu retiré en matière de DSA doit être notifié, ce qui n'est pas le cas dans ce texte américain. Donc on voit un peu des textes qui ont qui ont été adoptées assez rapidement, en tout cas au niveau du Sénat, mais qui manquent de trouver un équilibre entre protection des droits des utilisateurs et protection des droits fondamentaux de l'ensemble de la collectivité.
Alors tout ça est assez technique et je vous remercie d'être aussi clair et limpide dans vos explications. Il y a un autre niveau de lecture qui m'intéressait quand vous avez parlé tout à l'heure des valeurs. Aujourd'hui, les Européens disent que le développement technologique ne se fera pas au détriment de leurs valeurs. Quelles valeurs dit en l'occurrence défendre l'Europe? Quelles valeurs défendrait d'après elle tous ces règlements qui ont été mis en place ces dernières années?
Alors évidemment, les valeurs sont nombreuses. On les retrouve dans la charte des droits fondamentaux. On a la liberté d'expression en tête. Évidemment, le DSA n'est pas un outil de censure. Ça, c'est quelque chose qui revient parfois dans les médias où on a l'impression que c'est un texte qui permet de retirer des contenus de manière arbitraire. C'est pas du tout le cas. Le DSA est un texte qui permet une analyse des risques, qui permet une transparence. On a beaucoup d'outils au sein du DSA qui permettent d'avoir accès à de l'information sur les méthodes qui sont justement faites pour retirer des contenus. Donc on a un texte qui favorise une meilleure information des citoyens. Les valeurs, c'est des valeurs démocratiques. Liberté d'expression, protection de la vie privée, protection des droits fondamentaux, notamment droit de rassemblement, droit de manifestation. Toutes ces valeurs, c'est en effet des valeurs politiques, une vision que les États-Unis partagent ou partageaient en tout cas qu'on retrouvait dans leur Bill of Rights et en fait elles sont déroulées dans du droit dit dérivé qui sont ces règlements et ces directives afin d'avoir un ancrage beaucoup plus actionnable parce que les grands textes type charte des droits fondamentaux ou déclaration des droits c'est des ambitions et puis derrière on a effectivement ce droit dérivé qui sont ces règlements qui permettent à un citoyen ou une personne de pouvoir activer devant les juridictions, devant les autorités, ces textes européens.
Mais alors c'est aussi, ça fait partie du discours aussi de l'Union européenne que de dire, et ça fait toujours du bien entendre, qu'elle défend des valeurs et les droits de l'homme. Néanmoins, l'Europe, comme les États-Unis, contribue aussi à ce que les technologies transforment notre quotidien et pas toujours pour le meilleur. Quand la France délègue la sélection des étudiants à Parcoursup, permet à la police de recourir à la reconnaissance faciale, elle ne le fait ni à la demande des États-Unis, ni avec une technologie états-unienne. À chaque fois, est-ce que ces règles nouveaux défendus au nom de certaines valeurs font l'objet de débats politiques?
Alors, il y a les textes au niveau européen qui sont négociés et effectivement, il y a une vision très politique avec les États membres qui négocient, le Conseil de l'Europe. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui participent à cette négociation. Et puis après, en France, on a effectivement des textes qui malheureusement vont pas toujours dans le bon sens. En effet, je fais partie aussi des personnes qui sont
plus critiques,
très déçues par très critiques évidemment par l'utilisation d'algorithmes qui classent nos jeunes, qui génèrent un stress énorme au sein des lycéens qui doivent choisir leur futur via une plateforme et aussi au sein de ces familles. Il y a beaucoup de critiques. On a eu des associations qui ont demandé le code source de ce texte, enfin de ce logiciel pour essayer de comprendre comment il classait les choix, qu'est-ce qui était fait. Et effectivement, on a ce gros risque en matière de futur, enfin du futur de nos jeunes avec Parcoursup. Et puis, comme vous le disiez, les outils de reconnaissance faciale qui sont développés, uniformisés, utilisés de manière plus en plus importante, alors même que concrètement, on n'a pas d'impact, enfin d'impact très positif qui a été reconnu, notamment au moment des Jeux Olympiques. Ça a été un outil qui a été utilisé et pour autant, l'impact concret, l'analyse de l'impact a été assez critique. On n'a pas eu beaucoup d'impact positif.
Et d'ailleurs, le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté le 2 février dernier donne des exceptions à la police en matière de reconnaissance faciale. Alors ce texte, il interdit les intelligences artificielles de police prédictive individuelle, donc qui servirait à repérer des personnes en estimant leur propension à commettre des infractions. Ça, c'est interdit. Les logiciels de reconnaissance des émotions au travail ou à l'école, je ne savais même pas que ça existait. Ça existe d'ailleurs, oui, Suzanne Vergnol, il y a des développeurs de ce genre de logiciels.
Alors, on a des développeurs de tout. tout. Hein. Il n'y a pas de limite à la technologie. Effectivement, le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté en 2024, en juin 2024, est mis en application depuis effectivement février. C'est un texte qui classifie les systèmes d'intelligence artificielle en fonction du risque. Ici encore, on est un peu sur la même logique que celle du DSA. Mmh. Plus le risque est important pour la société et plus vos obligations vont être nombreuses. Et dans ce texte, on a des systèmes qui sont complètement interdits, notamment les techniques subliminales de manipulation des personnes. Ça, c'est complètement interdit. Et puis derrière, on a aussi d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui présentent un haut risque, notamment des systèmes dans les ressources humaines, par exemple. Et là, on va avoir un grand nombre d'obligations qui vont peser sur les fournisseurs de ces systèmes d'intelligence artificielle.
C'est surprenant d'ailleurs de se dire, j'imagine que vous parlez pour les ressources humaines de ces outils comme le tri des CV, qui est considéré aujourd'hui comme à haut risque par la Commission européenne, donc il les encadre et les autorise, donc, mais ne les interdit pas. Et je cite le chercheur Irénée Regnault qui a écrit Technologie partout, démocratie nulle part, qui parle d'un texte qui régule par les risques. Alors que, dit-il, l'Europe pourrait réguler par les droits et donner plus de pouvoir aux citoyens pour contester ou négocier la conception et l'usage de certaines intelligences artificielles. C'est vrai que c'est pas l'objet de l'émission, mais ça pourrait être là que l'Europe se démarque des États-Unis.
Alors en effet, on a en Europe ces derniers textes visent à réguler la technologie. Pour autant, il y a quand même des droits qui sont reconnus aux utilisateurs, et à mon sens, c'est des droits qui ont un petit peu du mal à trouver leur mise en place pratique. Le RGPD, par exemple, permet de faire des actions collectives et laisse aux États membres cette possibilité-là. La France a reconnu la possibilité de faire des actions collectives en matière de protection des données. Malheureusement, on a très peu d'actions collectives parce que on a des grosses difficultés en matière des conditions pour faire ces actions collectives, notamment la preuve du préjudice, l'existence d'une faute. Ce sont des conditions assez techniques dans lesquelles je rentrerai pas, mais on a cette possibilité, en tout cas ce bourgeon de possibilités qui est prévu par les textes, et une application, une mise en œuvre assez difficile. Et en effet, cette contestation des technologies, elle reste difficile. Et là, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est quelle est la place des associations dans la mise en œuvre de ces textes. J'ai été l'auteur d'un rapport avec des associations, justement, sur cette place en matière du règlement sur les services numériques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut permettre aux associations de participer à la mise en œuvre de ces textes. Et là-dessus, on a en effet du chemin à faire, parce que même si les textes permettent et reconnaissent l'importance des associations dans la mise en œuvre de leurs règles, on a encore une prudence de la part des autorités de régulation, de la Commission européenne, qui prend et en même temps met à distance ces associations. Donc il y a un peu une double action, et je serais vraiment heureuse de voir une meilleure mise en œuvre de ces textes grâce à l'action des associations.
En attendant, ce sont surtout les entreprises du numérique que l'on entend et qui, même quand elles sont en Europe, dénoncent parfois certaines décisions de régulation européenne comme étant, d'après elles, incohérentes, et disant, comme dans une lettre ouverte en septembre dernier, que l'Europe risquait de reculer encore dans l'ère de l'intelligence artificielle face à un président états-unien très offensif en la matière. Ici entouré par les PDG d'OpenAI, de SoftBank et d'Oracle.
Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate.
Ensemble, ces géants mondiaux de la technologie annoncent la création de Stargate. Notez bien ce nom dans vos carnets, car je pense que vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. Une nouvelle société américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis, et ce très rapidement, en créant plus de 100 000 emplois américains presque immédiatement. Cette entreprise monumentale est une déclaration de confiance retentissante dans le potentiel de l'Amérique sous l'égide d'un nouveau président.
Donald Trump, le nouveau président en question, qui s'auto-proclame lui-même et qui lance ici le projet Stargate en janvier, un investissement de 500 milliards de dollars pour assurer assurer la domination des États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle. De son côté, Ursula von der Leyen a annoncé 200 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle. En France, Suzanne Verniol, un fonds émirati investit des millions pour un centre de données géant, pour un campus consacré à l'intelligence artificielle. Tout ça au nom de notre souveraineté. D'ailleurs, c'est très paradoxal. Pourquoi copier absolument les États-Unis en se lançant à notre tour dans une course à la puissance plutôt qu'en réfléchissant à des systèmes alternatifs et qui n'entretiendraient pas aussi une division internationale du travail avec des travailleurs dans les pays du Sud qui nourrissent et qui entraînent l'intelligence artificielle?
Alors d'abord, je pense pas que l'Europe copie les États-Unis en matière de financement des technologies parce que on avait déjà des programmes de financement qui existaient avant l'annonce du président américain Stargate. Notamment, par exemple, en France, on a le programme France 2030 dans lequel je suis experte et donc je suis amenée régulièrement à analyser des projets qui demandent des financements au gouvernement français via la BPI. Et ce que je constate, c'est que à chaque fois, ces analyses de projets sont faites de manière extrêmement consciencieuse, avec une vision très politique de ce dont on a besoin pour le futur. Et ça fait déjà plusieurs années que ce programme existe en France. On a aussi au niveau de la Commission européenne un projet qui s'appelle le 28e régime, qui est un instrument de droit des contrats qui vise à simplifier la création d'entreprises à portée européenne, et ça dans l'objectif de favoriser des levées de fonds à l'échelle européenne et donc de favoriser de l'investissement privé ou public aussi, hein, mais privé principalement pour des visions un petit peu technologiques et pas que, mais pour faciliter, simplifier au niveau européen cette création d'entreprises. Donc on avait déjà des choses au niveau européen et au niveau français. Je pense que les dernières annonces du président Macron et de Ursula von der Leyen, c'était aussi pour dire que nous aussi en Europe, on fait des choses et que nous aussi, on veut soutenir notre industrie, notamment en matière d'intelligence artificielle. Mais il y avait déjà des choses très intéressantes qui étaient en cours de mise en œuvre.
Avec d'autres projets qui posent question, encore une fois, ces investissements émiratis massifs en France, ce ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque les big tech, Amazon, Microsoft, IBM avaient annoncé l'année dernière, en mai, avant l'élection de Donald Trump, un plan d'investissement de 7 milliards d'euros à cet effet pour la France, pour installer des méga-centres de données en France. Et d'ailleurs, il était question en France d'une loi qui accélérerait l'implantation de méga-centres de données en contournant le pouvoir de décision des élus locaux et avec toutes les autres questions que cela pose aussi en termes environnementaux. Ces centres de données qui contribuent à aggraver avec le temps, ne serait-ce qu'à cause de l'énergie qu'ils consomment, de la chaleur qu'ils dégagent et des techniques de refroidissement qu'il faut déployer, aggravent les problèmes environnementaux. Peut-être pour conclure aussi, Suzanne Verniol, je ne sais pas où en est le projet d'investissement des big tech sur les centres de données en France. En tout cas, est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises américaines vont contribuer à mettre cette escalade en pause, à dire à Donald Trump que finalement, ils n'ont pas intérêt à ce que cela s'envenime?
Alors ça, c'est il y a plusieurs courants au sein des entreprises technologiques américaines. Toutes n'ont pas kiss the ring, comme on dit, embrasser l'anneau. Il y a effectivement, à mon avis, des entreprises qui visent un petit peu à montrer une voie alternative. La question environnementale est une question essentielle sur laquelle il y a des travaux de recherche qui sont en cours, notamment pour analyser l'impact de l'intelligence artificielle en matière de consommation d'énergie. En France, on a la chance d'avoir de l'énergie entre guillemets propre avec le nucléaire qui permet justement d'avoir cette énergie possible. Après, comme vous le souleviez, il y a aussi des questions de droits humains avec ces personnes qui analysent les contenus d'intelligence artificielle qui sont dans des pays pauvres. Là-dessus, je renvoie aux travaux d'Antonio Casilli qui sont absolument essentiels sur les travailleurs du CLIC qui justement discutent de ces personnes. On a vraiment des enjeux aussi démocratiques très concrets en Europe, savoir énergétique, transition énergétique, et puis en effet protection des droits des travailleurs qui sont au-delà de nos frontières, mais pour autant qui servent à des instruments qu'on utilise au sein de nos frontières.
Merci beaucoup Suzanne Verniol. Vous restez avec nous dans un instant. Nous parlerons juste après le disque de Jikin du chanteur américain William. On parlera de la constellation OneWeb d'Eutelsat, une alternative européenne à Starlink.
my geek on, get my geek on, get my geek on, get my geek. Here we go, here we go. 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 Hey, I'm on that geek geek. Freaking technology, technique, neek. Yeah, I flow tight, never leak, leak. I'm the future with a bunch of antique, teak. I make Google money, that's a lot of clicks. So tell me who the dummy and who the genius? Yep. That's why you buy it, use it, use an addict. I thought it up, then you bought it, I bought cause I'm technological. Oh, yep, I'm writing that code. It was the ones, but it was an O's, O's. Triple ones, it was an O's, O's. Yo, I'm ice cold. I am too cool. I am new school. I am plus pick, let me take a flick, boo. Ay, yo, I'm the nerd. I'm by the ball real big, Mark Zuckerberg. You know the nerd is the perp. What you heard? You need a follow up, leader, Tweety Bird. Get my geek on, get my geek on. Get my geek on, get my geek on. Get my geek on, get my geek on. Get my geek geek. Here we go, here we go.
Geeking, je savais pas que geek c'était aussi un verbe. Le chanteur américain Will.i.am, le cofondateur du groupe Black Eyed Peas. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur l'Europe au pied du mur face aux pressions exercées par Donald Trump. Aujourd'hui, sortir de la dépendance aux services numériques américains, y compris à l'internet par satellite.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Début mars, Elon Musk, PDG de SpaceX, rappelait sur son réseau social X la dépendance de l'Ukraine à son fournisseur d'internet par satellite. Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Si je l'éteignais, toute leur ligne de front s'effondrerait. Et même s'il a assuré ensuite qu'il ne le ferait pas, eh bien des alternatives européennes voient le jour. Bonjour Célestine Rabouham.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, l'IFG, chercheuse au centre de recherche Géo. D'abord, comment l'américain SpaceX d'Elon Musk est devenu un géant du secteur? Avec quelle stratégie commerciale ou technique?
Alors, il y a plusieurs éléments qui expliquent cette position dominante aujourd'hui dans le secteur de l'aérospatial, mais aussi de l'Internet par satellite. Déjà, Starlink, ça a été l'une des premières constellations à être annoncée autour des années 2010-2015, même si OneWeb, du coup, aujourd'hui, l'alternative qu'on considère européenne, même si elle a été développée par un acteur américain à la base, a été annoncée en 2014. Donc, Starlink a été annoncée en 2015. Donc, déjà, en termes de temporalité, c'est l'une des premières constellations à avoir été annoncée. Et ensuite, Starlink s'appuie sur un modèle économique extrêmement spécifique, puisque il est, contrairement à un opérateur de satellites traditionnels, comme par exemple Eutelsat ou d'autres opérateurs, Starlink vend directement ses services aux utilisateurs. Et il contrôle absolument toute la chaîne de valeur de la constellation, de la construction des satellites, à leur lancement via les fusées de SpaceX, jusqu'à l'opération, l'exploitation des satellites et la vente des services. Ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une extrême adaptabilité et flexibilité pour fournir des services dans des contextes très spécifiques et aussi donc de fournir des services très rapidement, notamment en cas de crise et par exemple de catastrophe naturelle.
Oui, Mayotte par exemple, et l'Ukraine aussi, qui tout a choisi par exemple en Ukraine de se tourner vers SpaceX au début de la guerre?
Alors, au début de la guerre, c'est il me semble le vice-premier ministre ukrainien qui justement avait appelé Elon Musk directement sur X à venir aider les Ukrainiens grâce à son réseau Starlink. Et d'ailleurs, ce qui a été un énorme coup de com pour Starlink, qui quelques jours après a publié plusieurs images montrant des terminaux Starlink à destination de l'Ukraine. Et c'est comme ça que le service a commencé à devenir de plus en plus indispensable en Ukraine.
Il y en a des milliers d'ailleurs aujourd'hui, 10 000 dès le début de la guerre et aujourd'hui plus de 42 000 terminaux en Ukraine pour Starlink. Donc on verra s'il choisit finalement de les couper, parce qu'en fait ça lui poserait aussi des problèmes pour son entreprise.
Tout à fait.
En tout cas, des alternatives européennes se sont mises en place. La constellation OneWeb, disiez-vous. D'abord, est-ce que c'est un modèle économique similaire? Est-ce que ce sont avant tout des intérêts privés comme pour SpaceX?
Alors, initialement, OneWeb donc a été développé, proposé, en fait, le projet a été proposé en 2014 par Greg Weiler, qui est aussi un Américain. En 2020, la société OneWeb a fait faillite et elle a ensuite été récupérée par, enfin, sauvée, entre guillemets, par un consortium public-privé, donc Bharti Global, qui est un conglomérat indien, et le gouvernement britannique. Et en 2023, elle a fusionné avec Eutelsat. À la base, c'est quand même un acteur américain, mais aujourd'hui qui est beaucoup plus porté par des intérêts européens, privés en l'occurrence. Et OneWeb a un modèle économique extrêmement différent puisqu'il va agir plutôt comme un opérateur de satellites et il va travailler avec des distributeurs pour fournir ses services Internet.
Donc il ne contrôle pas toute la chaîne
Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, pour lancer ses satellites, OneWeb a aussi été impacté par la guerre en Ukraine, puisqu'ils étaient censés initialement lancer les satellites à Baïkonour
depuis la Russie.
Et finalement, ils ont dû se tourner notamment directement vers leur concurrent SpaceX pour le lancement des satellites et aussi des lanceurs indiens.
Donc OneWeb ne propose pas exactement d'ailleurs les mêmes services que Starlink, puisqu'il vise plutôt les acteurs gouvernementaux, les armées pour les systèmes de positionnement, de communication sécurisée, de renseignement collectés depuis l'espace. Est-ce aussi rapide à déployer que les satellites Starlink de SpaceX, et est-ce que c'est une ambition que OneWeb affiche?
Oui, alors là on rentre un tout petit peu dans un détail technique, puisqu'en fait OneWeb, contrairement à Starlink, les satellites de la constellation ne sont pas interconnectés entre eux. Et ça, c'est l'un des principaux atouts de Starlink aujourd'hui, c'est que son réseau de satellites est complètement interconnecté, ce qui forme un maillage en fait de satellites autour de la Terre, ce qui permet en fait aux informations, aux données de circuler très rapidement entre les satellites, et ce qui demande beaucoup moins d'infrastructures terrestres. Et pour déployer le service, par exemple, Starlink n'a pas besoin d'avoir une station au sol connectée à des dorsales Internet, à des réseaux Internet terrestres, pour faire fonctionner son service sur un territoire. Alors que OneWeb a beaucoup plus besoin de stations terrestres, de stations au sol, pour faire circuler les informations au sein de sa constellation. Donc déjà, ça c'est techniquement un défi que doit surmonter OneWeb par rapport à Starlink.
OneWeb qui a beaucoup moins d'ailleurs de satellites en orbite aujourd'hui, 634, ce sont les derniers chiffres qu'on a trouvés, contre 8070 pour SpaceX, qui n'arrête pas d'envoyer de nouveaux lots dans l'espace. Il n'empêche, l'action de Telsat a augmenté de 400% dès la première semaine du mois de mars, ce qui serait une preuve, nous dit-on, de la confiance des investisseurs de ce que Telsat serait une alternative crédible. Par exemple en Ukraine, ce serait possible, Célestine Rabouam, que du jour au lendemain, quasiment, on dise c'est trop risqué de rester avec SpaceX en Ukraine, on demande à OneWeb de se déployer.
Alors, on peut s'appuyer sur les services OneWeb, effectivement. Par contre, ça va demander à OneWeb de développer beaucoup plus de terminaux et d'infrastructures terrestres pour permettre la résilience du réseau. Parce qu'en fait, l'atout justement de cette interconnexion entre les satellites en orbite, c'est qu'on dépend beaucoup moins d'infrastructures terrestres. Et donc, ces infrastructures terrestres qui étaient d'ailleurs les principales à être... Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que l'Ukraine a commencé à s'appuyer sur Starlink, puisqu'en fait, les infrastructures terrestres ont été touchées par des attaques russes, et c'est pour ça que les infrastructures terrestres posent un petit peu un problème dans ce cas-là. Mais OneWeb peut tout de même représenter une alternative à Starlink en Ukraine.
Et est-ce que OneWeb peut envoyer autant de satellites dans l'espace que SpaceX? Est-ce qu'il y a encore de la place tout simplement en orbite basse, là où le temps de latence est moindre pour les utilisateurs? Donc a priori c'est plus intéressant pour les opérateurs d'envoyer leurs satellites en orbite basse. Est-ce qu'il y a de la place encore pour OneWeb?
Alors, c'est pas forcément une question de place physique. Alors déjà, les satellites OneWeb, ils sont un petit peu plus hauts que Starlink. Starlink, les satellites sont entre 400 et 600 km d'altitude. Pour OneWeb, on est aux alentours de 1200 km d'altitude. Et en fait, c'est pas tellement une question de place au niveau des orbites qu'une question de fréquence. Et en fait, ces fréquences, c'est un peu le premier arrivé, le premier servi au niveau de l'Union internationale des télécommunications, ce qui place SpaceX dans une très bonne position, enfin Starlink dans une très bonne position, puisqu'elle a déposé des demandes de fréquences au niveau de l'Union internationale des télécommunications pour des milliers de satellites. Et les constellations qui vont arriver après Starlink vont être désavantagées, puisqu'elles vont devoir adapter leur propre utilisation des fréquences pour ne pas interférer avec ces constellations qui sont déjà particulièrement importante.
Peut-être pour conclure, Célestine Rabouam, pour qu'on replace toute cette discussion dans un cadre un peu plus large, aujourd'hui la part des satellites dans le trafic Internet mondial, c'est...
Oui, alors c'est très, très minime. En réalité, l'Internet, le trafic Internet aujourd'hui, il s'appuie principalement sur des réseaux de câbles continentaux et de câbles sous-marins. Donc le satellite, il est très minime. Et en plus, un élément important qu'on oublie souvent, c'est que les satellites, pour fournir une communication Internet, ils dépendent aussi de ces infrastructures terrestres. Donc en fait, le satellite, il va jouer plutôt le rôle de relais entre l'antenne de l'utilisateur et les infrastructures terrestres pour permettre de fournir ce service Internet.
Merci beaucoup Célestine Rabouam, doctorante à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, l'IFG, et chercheuse au centre de recherche Géode. Peut-être Suzanne Vergnol, sur la question des infrastructures, si on parle de réduire notre dépendance aux services numériques, il y a aussi la question des infrastructures terrestres et pas seulement les centres de données, mais aussi tous ces câbles sous-marins sur lesquels les États-Unis sont là aussi hégémoniques.
Alors oui, tout à fait. Il y a en effet cette discussion sur les câbles sous-marins transatlantiques, notamment qui sont posés par des grandes entreprises privées. Et puis là, on a récemment eu des inquiétudes géopolitiques avec ces ruptures de câbles au niveau de la mer du Nord, avec une surveillance par les États là-bas, parce qu'il y a effectivement ce grand enjeu géopolitique. En matière de câbles sous-marins, parce que comme le disait Célestine Rabouam, la plupart du trafic Internet passe par ces infrastructures câbles, et donc c'est très important de s'assurer que ces câbles restent en sécurité.
Pour conclure cette discussion, Suzanne Vergnol, vous souhaitiez dire un petit mot sur la possibilité que se donnerait aujourd'hui l'Union européenne de récupérer des talents, comme on dit, se détournant des États-Unis, pas les scientifiques états-uniens dont on a parlé d'ailleurs rapidement hier et dont les invités étaient d'accord pour dire il ne faut pas se payer de mots. D'abord, les scientifiques états-uniens ne sont pas les seuls à être en danger aujourd'hui. Et en plus, on est assez limité dans nos moyens pour les accueillir dans nos universités françaises qui manquent de moyens. En revanche, pour ceux qui travaillent dans toutes ces entreprises du numérique, comment l'Union européenne peut-elle se dire on peut peut-être les réattirer ici, avec quelle carotte, entre guillemets?
Alors, on a eu pendant plusieurs années des chercheurs ou des spécialistes qui sont partis de l'Europe vers les États-Unis. On avait beaucoup de fondateurs d'entreprises technologiques aux États-Unis qui étaient en fait européens. Et puis là, on a cette opportunité, je dirais, de pouvoir ramener ces spécialistes en Europe, soit avec de l'investissement, mais aussi avec une simplification de nos règles européennes. Et je trouve que le 28e régime, la proposition en tout cas, est quelque chose de très intéressant. On a un bourgeon de simplification du droit des contrats en Europe qui est particulièrement intéressant.
Le 28e régime qui doit adapter les principes du droit européen des contrats pour permettre aux entreprises en Europe d'avoir un régime simplifié, harmonisé, qui faciliterait, d'après l'Union européenne, l'attractivité de l'Europe pour ses salariés. Merci beaucoup, Suzanne Vergnol, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit du numérique au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Merci d'avoir été avec nous depuis les studios de la radio-télévision suisse romande, la RTS, et merci à Stéphane Tornard de vous avoir accueilli. Il est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Il n'y a pas que la France, Catherine, qui cherche à faire des économies au Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste veut couper jusqu'à 6 milliards d'euros dans les aides aux personnes handicapées ou malades.
C'est ce qu'a proposé la ministre du Travail, Liz Kendall, hier, envoyée au front pour détailler ses économies drastiques devant les députés britanniques. Elle a présenté un livre vert, mais de nombreux députés travaillistes ont vu rouge, tout comme des familles et des associations. Le fait d'être handicapé entraîne des coûts supplémentaires et réduire les aides actuelles, durcir leurs critères d'éligibilité, va plonger davantage de Britanniques dans la pauvreté, rapporte le quotidien Eye. Liz Kendall a beau se défendre dans une allocution, notamment reprise par le London Standard et la BBC, des changements, dit-elle, sont nécessaires pour que le système d'aide sociale bénéficie aux plus démunis, note le quotidien écossais The National, le tout dans un contexte de croissance molle au Royaume-Uni, avec un déficit plus grave trouvé par les travaillistes à leur arrivée au pouvoir après 15 années de gouvernement conservateur. Le tabloïd Daily Mirror estime, lui, que la ministre du Travail a livré hier une mauvaise prestation devant les députés. Et pour souligner l'inhumanité de ces coupes budgétaires, leur cruauté, le mot est lâché en une du quotidien écossais The National et en une également du Daily Mirror. Ce tabloïd, le Daily Mirror, publie en première page, à côté d'une image peu flatteuse de la ministre du Travail, Liz Kendall, montrée vociférante, les traits crispés, le Daily Mirror montre donc une autre photo en une, celle d'une mère de famille, Nicolas Holmes, et de son fils, Ethan, atteint de trisomie 21 et d'autisme. Nicolas raconte au journal qu'elle a dû lâcher son travail d'esthéticienne pour s'occuper de ses enfants à plein temps. Cette famille a besoin des aides sociales pour enfants handicapés, des aides chiffrées aujourd'hui à 1500 livres sterling, indique le Daily Mirror, soit 1800 euros. Les prestations d'invalidité seraient supprimées pour plus d'un million de personnes, relèvent le Guardian et le Times, même si le gouvernement travailliste refuse de le confirmer.
Et la majorité travailliste se divise sur ce projet.
Risque d'attiser la plus grande fronde des députés travaillistes sous le gouvernement de Keir Starmer, prévient le Financial Times. L'ancien chef du parti travailliste Jeremy Corbyn, cité par The National en Écosse et par le Financial Times, estime aussi que ces coupes budgétaires constituent un acte de cruauté de la part de la gauche. Pire encore que l'austérité précédemment imposée par les conservateurs, avec donc la révision d'un système de points, comme l'explique sur la radio LBC le journaliste politique Andrew Marr, qui a lui-même été victime d'un AVC en 2013.
If you need help to get in and out of a bath, I do.
Si vous avez besoin d'aide pour entrer et sortir d'un bain, et moi-même j'en ai besoin, cela vous donne 3 points. Si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour vous laver et vous habiller, alors vous obtenez 8 points, assez pour obtenir des aides pour personnes handicapées ou invalidités. Quelles sont vos difficultés pour marcher? Souffrez-vous d'une anxiété, d'une dépression si grave que vous n'arrivez pas à faire face aux autres, que vous n'arrivez pas à sortir de chez vous? Toutes ces questions sont assez intimes, estime Andrew Marr sur la radio britannique LBC. Mais ces questions seront davantage posées avec la réforme proposée par le gouvernement travailliste. Et cette réforme interroge aussi le rapport de la gauche au travail, ajoute la LBC. L'oisiveté était l'un des mots à combattre, selon le rapport Beveridge, qui a servi de base au gouvernement travailliste après la Seconde Guerre mondiale pour instaurer l'État-providence au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, dans les colonnes du Times, le Premier ministre travailliste Keir Starmer veut réformer un système d'allocation qui, selon lui, incite activement les gens à ne pas travailler, un affront, dit-il, aux valeurs britanniques. Les jeunes sont particulièrement visés, note le quotidien VI, eux qui souffrent de dépression et d'anxiété. Le nombre de personnes âgées de 16 à 34 ans qui ne travaillent pas à cause d'un problème de santé mentale a augmenté de plus de 25% l'an dernier, 270 000 Britanniques concernés. Depuis la pandémie, les troubles liés à la santé mentale se sont ajoutés aux problèmes causés depuis la désindustrialisation, les années Thatcher et la crise financière des années 2007-2008. Et la ministre Liz Kendall a donc proposé hier de travailler 5-6 heures par semaine, d'essayer sans perdre pour autant toutes ses allocations handicap ou invalidité. De son côté, l'ONG Save the Children dit craindre dans les pages de VI que les niveaux de pauvreté des enfants n'augmentent avec cette réforme dans les familles dont l'un des membres est handicapé. Alors que l'an dernier, j'en parlais ici même, le Royaume-Uni a connu une recrudescence des cas de scorbut, de ou encore de rachitisme associé à la malnutrition et à la pauvreté, ces maladies de l'ère victorienne sont de retour et ça en dit long sur la crise sociale au Royaume-Uni, souligne le Guardian. Pour le journal de gauche, les conservateurs sont en partie responsables de la situation après avoir mené des coupes budgétaires dans les aides sociales et la santé, tandis que le coût de la vie a lui augmenté. Aujourd'hui, reste à savoir, se demandent la radio LBC et le Financial Times, comment la réforme, les nouvelles coupes annoncées, cette fois par un gouvernement travailliste, seront perçus au sein de la population et si la fronde au sein des travaillistes va concerner une vingtaine de députés ou bien 50 à 80, ce qui pourrait alors fragiliser, selon LBC, le Premier ministre Keir Starmer.
Merci beaucoup Catherine Dutu.